Lorsque le visiteur entre dans la salle où est conservé le retable, il est interloqué par le spectacle qui se déploie devant ses yeux. Au centre, une gigantesque et sobre crucifixion, en dessous sur l'après d'elle, la déploration du Christ, et de part et d'autre de la crucifixion, deux panneaux peints, Saint-Sébastien à gauche et Saint-Antoine à droite. Saint-Antoine est le patron du lieu. Le retable, lui, en partie dédié, craint et prié par les pèlerins qui ne veulent pas avoir la maladie, il fait l'objet d'une dévotion sans faille des malades qui espèrent en sa clémence pour une guérison prochaine. Dans ce panneau, Saint-Antoine, figure solitaire et monumentale, reste insensible à l'attaque de la monstresse, brisant à coups de bâton et de pierre la verrière. Les verres brisés qui s'en détachent ne réussissent guère à faire bouger le vieillard. Sa tentation par des démons constitue la scène la plus populaire de la vie du saint guérisseur égyptien, écrite par un de ses contemporains, saint Athanase, évêque d'Alexandrie. Fidèle à l'iconographie du saint, le peintre le désigne par son attribut essentiel, la crosse en forme de taux, le T majuscule, qui tient de la main gauche, dont l'aspect n'est pas sans rappeler les béquilles sur lesquelles les malades amputés de la jambe étaient contraints de s'appuyer pour se déplacer. Le peintre accentue le caractère imposant et hiératique de l'ermite en érigeant sa figure sur un piédestal traité en grisaille, à l'image du socle d'une statue et en l'accolant à un pilastre de marbre vert. Le revers du manteau largement déployé crée une tache rouge animée par les effets d'une lumière latérale qui viennent s'ajouter aux lueurs filtrantes de la verrière. En pendant à Saint-Antoine, à gauche de la crucifixion, se trouve le panneau de Saint-Sébastien. La silhouette élégante du saint se détache sur un fond sombre où se dessine une colonne et un socle traité en un gris subtil. Le mouvement du corps, dont le drapé rouge-orangé épouse les formes, met en valeur le modelé des muscles. La lumière projette l'ombre du saint sur la colonne dont il vient d'être détaché. Elle irradie les carnations, enveloppe la silhouette et lui donne une présence presque sculpturale. Les flèches qui transpercent son corps renvoie à son premier martyr et permettait à tous de l'identifier comme étant Sébastien, saint vénéré contre la peste dès le 7e siècle. À la fin du 3e siècle, ce centurion refusa d'abjurer sa foi chrétienne, fut condamné à mort par l'empereur Dioclétien. Il servit de cible aux archers. Le lien avec la peste dérive d'une croyance ancienne héritée du paganisme, selon laquelle la peste naît des flèches lancées par des dieux irrités. Ainsi, dans l'Iliade, Homère évoque la colère d'Apollon qui, pendant 9 jours, décocha ses flèches empoisonnées sur le camp des Grecs. Par la fenêtre ouverte sur la plaine, le peintre a pris soin de peindre dans le ciel des angelots portant la couronne du martyr. L'un d'eux tient l'arc du supplice et un autre, qui est étonnamment nu et qui exhibe un sexe masculin, des flèches. Entre ces deux panneaux, un drame se joue. Grunewald, vous allez le voir, multiplie les artifices afin d'impliquer aujourd'hui le visiteur, hier le pèlerin ou le malade. À la souffrance de ce dernier reprend celle du Christ. Sa chair torturée glorifie le mal qui brûle le corps des malheureux en proie à l'ergotisme. Le paysage sombre, d'ailleurs peu de gens sont capables de deviner dans la petite tache noire sur le fond vert les murailles de la ville de Jérusalem. Donc sur ce fond sombre fait ressortir des silhouettes dressées, figées dans des poses explicites. Le peintre ainsi a enveloppé la Vierge de blanc, le linceul dans lequel son fils sera enseveli, couvre son vêtement bleu. Cette innovation fait converger les regards vers la mère du Christ sur la gauche de la crucifixion à l'instant où elle s'évanouit dans les bras de saint Jean. Tous deux expriment une unique et insurmontable souffrance. Certains pourraient dire « mais le bras de saint Jean est bien trop long ». Le besoin d'exprimer le soutien d'un homme à la mère de son ami et le souhait d'harmoniser les formes prend le pas pour Grunewald sur les proportions du corps humain. À leur côté, Marie-Madeleine est agenouillée avec à ses pieds le pont d'Angan, contenant du parfum avec lequel de ses cheveux elle a lavé les pieds du Christ. Sa silhouette, exagérément réduite, offre l'image de la pécheresse. C'est à ce personnage, très certainement, que les pèlerins et les infirmes s'identifient. Les mains jointes, les doigts entrecroisés, implorent le Christ. Mais que veulent exprimer celles justement du Christ, paumes ouvertes, dirigées vers le ciel, doigts écartés et crispés, du crucifié, la douleur, la prière, l'impuissance. La chair du Christ est meurtrie par la flagellation qui a précédé la crucifixion. Écharde, vaisseau éclaté, marque la peau verdâtre du crucifié. L'agonie a étiré et tordu les muscles, la cage thoracique est soulevée dans un ultime effort et offre un appui à la tête sans vie. Cette vision horrible est montrée du doigt par le personnage à droite de la composition. Son vêtement, en poil de bête, en poil de chameau, permet de l'identifier. Il s'agit de Jean-Baptiste, qui normalement n'est pas censé être là, puisqu'il a été décapité avant la mort du Christ. Pour les peintres de cette époque-là, ce n'est pas un problème. Il est là en tant que dernier prophète de l'Ancien Testament qui introduit le Messie, premier prophète du Nouveau Testament. C'est le sens des paroles annonciatrices inscrites en lettres rouges au-dessus de son bras et qu'il faut traduire du latin ainsi « Il faut que je lui grandisse et que moi je décroisse ». L'agneau à ses pieds qui symbolise le sacrifice du Christ porte à ce titre la croix et son sang coule dans un calice. L'après d'elle, en dessous de la crucifixion, montre le Christ descendu de la croix, soutenu par Jean et prié par Marie et Marie-Madeleine. Juste avant qu'il ne soit placé dans son tombeau. L'exagération voulue par le peintre est rendue par la taille disproportionnée du Christ, le visage défiguré par la douleur de Marie-Madeleine exprimait une nouvelle fois l'idée du sacrifice du Christ qui devait aider les malades à accepter leurs souffrances. Pour terminer ce petit cycle sur le retable d'Isenheim, je vous propose en un dernier rendez-vous de vous lire, alors attention, je ne suis pas Guillaume Gallienne, de vous lire des beaux textes de la littérature ou de la philosophie consacrés au retable d'Isenheim.